Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs dépêches d'Africa Press, datées du 11 juin 2025. Au programme, un tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale, des enjeux politiques, économiques et même culturels. Notre but, extraire les points clés, les perspectives importantes. Et on commence tout de suite avec l'Afrique du Sud. Il y est question d'un dialogue national qui vient d'être annoncé.
Oui, tout à fait. C'est le président Ramaphosa qui a lancé ça lors d'une allocution hier, le 10 juin. L'objectif qu'il donne, c'est de retisser le lien entre les institutions et la société.
Retisser le lien. Concrètement, ça se traduit comment ? Un calendrier ?
Alors, il y a une convention prévue avec la société civile pour mi-août 2025. Et puis un bilan avec des propositions citoyennes début 2026. Tout ça arrive, il faut le dire, dans un contexte assez tendu. Ça fait 30 ans que l'apartheid est fini, mais les fractures sont toujours là. Pauvreté, chômage énorme, inégalité.
Oui, sans parler de la criminalité, la corruption. Et politiquement, l'ANC, son parti, n'a plus la majorité absolue, c'est ça ?
Exactement. Donc on peut se demander si ce dialogue, ce n'est pas aussi une tentative de regagner un peu de légitimité.
Le risque, c'est que ça reste juste de la com', non ? Sans vraie mesure de rien ?
C'est tout l'enjeu, oui. Est-ce que ce sera une vraie consultation ou juste un exercice de style ? Les attentes sont immenses. C'est un vrai test pour le gouvernement.
D'accord. Restons en Afrique, mais allons au Gabon. Là, c'est une autre forme de tension. Des expulsions à Libreville.
Et ce qui complique les choses, c'est qu'il y avait une procédure judiciaire en cours qui demandait une expertise.
Ah oui, quand même. Et la réaction sur place ?
Ben, colère, incompréhension. Des députés, des partis, la société civile réclament une enquête parlementaire.
Le gouvernement justifie ça comment ?
Officiellement, c'est pour un projet de modernisation, une cité administrative, un boulevard, et aussi pour lutter contre les inondations et le mal logement.
Mais la méthode pose question. On parle de rénovation urbaine, mais est-ce que ça respecte les droits des habitants ? Surtout s'il n'y a pas de relogement prévu ou d'accompagnement.
C'est la critique principale. Ça interroge sur la capacité de la transition politique actuelle à être ferme, oui, mais aussi juste socialement.
Changeons complètement de registre et d'échelle. La guerre commerciale États-Unis-Chine, quoi de neuf ?
Alors, il y aurait eu un accord de principe trouvé à Londres tout récemment, les 10 et 11 juin, pour essayer de calmer le jeu.
Un accord de principe, donc rien de fait ?
Non, loin de là. Il faut encore que Trump et Xi Jinping donnent leur feu vert. Et ça, c'est pas gagné.
Et en attendant, la Chine, elle fait quoi face aux taxes américaines ? Elle subit ?
Pas vraiment, non. Elle est très pragmatique. On observe une réorientation massive de ses exportations vers l'Asie du Sud-Est. Entre janvier et mai, les chiffres sont impressionnants. Vietnam plus 19%, Thaïlande plus 21%, Indonésie plus 17%.
Comment ça marche concrètement ?
Essayer d'envoyer des composants chinois dans ces pays. Là-bas, ils sont transformés ou assemblés. Du coup, légalement, l'origine du produit change. Et il peut potentiellement être réexporté, y compris vers les États-Unis, sans subir les mêmes tarifs.
Malin. Mais ça doit susciter des soupçons de simple transit, non ?
Bien sûr. L'Indonésie, par exemple, est soupçonnée de transbordement. Jakarta a promis de renforcer les contrôles douaniers.
Ce qui est intéressant, c'est que ces sanctions américaines, au final, elles poussent peut-être la Chine à renforcer ses liens avec l'ASEAN.
C'est un effet paradoxal, mais bien réel, oui. Ça ouvre un marché énorme pour la Chine et renforce l'intégration régionale là-bas.
Restons sur les tensions, mais régionales cette fois, à la frontière entre la Libye et le Soudan. Il y a eu un incident ?
Oui, le 10 juin. L'armée nationale libyenne, celle du maréchal Haftar, a dû nier être impliquée dans une attaque vers le Soudan.
Parce qu'il y avait des accusations...
Oui, Khartoum avait accusé l'ANL d'une offensive coordonnée avec les forces de soutien rapide, les FSR soudanaises. Mais l'ANL dit le contraire. Elle affirme que c'est une de ses patrouilles qui a été attaquée depuis le Soudan. Et elle accuse Khartoum de vouloir exporter son propre conflit.
Difficile de démêler le vrai du faux. C'est une zone très poreuse, non ?
Extrêmement. C'est une plaque tournante pour les armes, les combattants. Le risque d'une contagion régionale du conflit soudanais est très présent.
Ce qui nous amène, d'une certaine manière, au Mali. Un député malien a lancé un appel assez particulier.
Oui, Aliou Tounkara. Il demande carrément l'interdiction des importations ukrainiennes au Sahel.
La raison.
C'est une réaction à la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Kiev. Et aussi à des accusations ukrainiennes contre Wagner au Mali.
D'accord. Mais est-ce que ça a un poids réel économiquement parlant ? Les échanges sont importants ?
Non, très faible en réalité. C'est surtout une initiative symbolique, politique. Ça s'inscrit dans la ligne anti-occidentale de Bamako et son rapprochement avec Moscou.
Une façon de montrer son alignement et de mobiliser peut-être en interne ?
Exactement. C'est plus de la rhétorique qu'autre chose.
Parlons un peu d'économie africaine, plus structurelle. J'ai vu que la noix de cola faisait son entrée en bourse.
Oui, à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, en Côte d'Ivoire. C'est une initiative intéressante, lancée fin mai. Le marché mondial de la noix de cola est en pleine croissance. On parle de près de 120 millions de dollars en 2025 avec une demande variée. Agro-industrie, cosmétique, médecine.
Et l'Afrique de l'Ouest est bien placée, non ?
Oui, le Nigeria est le leader mondial, suivi par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana. Mais la production fait face à des défis. Les vergers vieillissent, les pratiques agricoles sont peu modernes, il y a des problèmes de ravageurs.
Il y a donc un potentiel énorme si on arrive à moderniser et à mieux valoriser le produit sur place.
Ouais.
Pour la caféine naturelle, par exemple.
Tout à fait, ça demande des investissements en recherche, en transformation, en logistique. Et une meilleure régulation régionale pour que les pays producteurs capturent plus de valeur.
Dans cette même idée de structuration économique panafricaine, il y a le projet d'agence africaine de notation, l'AFCRA.
Oui, le lancement est prévu d'ici septembre. L'idée, c'est d'avoir une alternative africaine aux grandes agences occidentales, Moody's, Fitch, S&P.
Qui sont souvent critiquées pour leur regard sur l'Afrique, jugées parfois biaisées ou trop sévères, non ?
C'est la critique récurrente, hein. Manque de transparence, notes trop punitives qui augmentent le coût de l'emprunt pour les États africains et freinent les investissements. Pour garantir l'indépendance de l'AFCRA, le capital sera détenu par des entités privées africaines, pas par les États.
C'est un enjeu majeur pour redéfinir l'accès de l'Afrique aux capitaux. Mais le défi sera de construire la crédibilité de cette nouvelle agence.
Immense défi, en effet. Mais ça s'inscrit dans une volonté d'autonomie économique continentale, comme la ZELECAF ou le rôle de la Banque africaine de développement.
Faisons un petit détour par la culture. Un film qui fait parler de lui sur Netflix, Straw, de Tyler Perry.
Oui, avec Taraji P. Henson. C'est sorti le 6 juin et ça suscite des réactions assez fortes. C'est un thriller psychologique très sombre. L'histoire d'une mère célibataire, Janya, qui est poussée à bout par toutes sortes de violences, sociales, institutionnelles, psychologiques.
Le synopsis parle d'un propriétaire abusif, d'un employeur terrible, des services sociaux défaillants.
Exactement. C'est le portrait d'une Amérique des laissés pour compte. Une mère noire, pauvre, invisible. Et quand sa fille malade fait une crise d'épilepsie, tout bascule. Elle commet un braquage, prend des otages.
Et il y a un twist, c'est ça ?
Oui, une révélation finale assez terrible qui montre que ses actions sont en fait les manifestations d'un esprit complètement brisé par un chagrin immense et une souffrance mentale que personne n'a vue ou voulu voir.
Un film qui a l'air puissant, mélange de drame social et de thriller psychologique ?
Très puissant et la performance de Taraji P. Henson est apparemment exceptionnelle. Ça interroge vraiment sur l'indifférence de la société.
Pour finir, retour aux États-Unis avec une autre histoire. Elon Musk qui fait une sorte de mea culpa concernant Donald Trump.
Oui, sur X, il a exprimé des regrets pour des postes passés où il avait été très dur avec Trump, l'accusant de lien avec Epstein, appelant à sa destitution.
C'était aller loin entre eux alors qu'ils avaient été plutôt proches à une époque, non ?
Oui. Il y a eu un gros clash, notamment sur une loi budgétaire. Trump avait mis en doute la santé mentale de Musk. Musk avait rappelé son rôle dans l'ascension de Trump. Et Trump avait même fait des menaces voilées contre les entreprises de Musk, Tesla, SpaceX, qui dépendent pas mal des contrats et subventions publiques.
Du coup, ces regrets de Musk, c'est stratégique, pour calmer le jeu et protéger ses affaires.
Ça y ressemble beaucoup, oui. Apaiser les tensions tout en essayant de garder une image d'indépendance, ça montre un peu les limites de l'influence, même pour quelqu'un comme Musk, face au pouvoir politique.
Bon. On a fait un sacré tour d'horizon. De l'Afrique du Sud au Gabon, des tensions sino-américaines aux frontières africaines, des initiatives économiques comme la noix de cola ou AFCRA, jusqu'au cinéma et aux jeux de pouvoir américains.
Ce qui est frappant, en fait, c'est de voir partout cette tension. Entre la recherche d'autonomie, que ce soit au niveau d'un pays, du continent, ou même d'un individu face au système, et puis la réalité d'un monde hyper connecté, mais aussi très fracturé.
Effectivement. Et ça laisse peut-être une question pour la réflexion. Comment est-ce que ces différentes quêtes d'autonomie, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles, peuvent naviguer dans ce monde complexe ? Comment trouver le juste équilibre entre affirmer sa propre voix et gérer les interdépendances, parfois les conflits qui sont inévitables ?
Voilà, une bonne question pour méditer.
C'est sur cette question qu'on va clore notre discussion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.